Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonsoir à toutes et tous. La Syrie est proche d'un cataclysme humanitaire. C'est la crainte formulée tout à l'heure à l'Assemblée par Jean-Yves Le Drian. En 48 heures, l'armée de Bachar el-Assad a tué près de 250 civils dans l'enclave de la Ghouta. Dans le même temps, le régime syrien s'engage dans une autre offensive contre les Turcs. Nous ferons le point sur la situation avec Nabila Hamel. Dans ce journal, nous parlerons aussi de nouvelles révélations d'abus sexuels au sein de l'ONG Oxfam. De Laurent Wauquiez qui ne regrette pas ses propos chocs livrés à des étudiants lyonnais. Le président des Républicains assume tout ou presque, nous dira Stéphane Robert. On parlera aussi du procès en appel de Jérôme Cahuzac. L'accusation a requis la même peine qu'il y a 2 ans, 3 ans de prison ferme. Et puis l'invité de ce journal sera la députée du Maine-et-Loire, Stella Dupont, une élue de la majorité qui émet des réserves sur le projet de loi Asile et Immigration, un texte présenté demain en Conseil des ministres. C'est ce que l'on peut appeler un acharnement. En Syrie, les forces gouvernementales ont encore tué aujourd'hui plus d'une centaine de civils dans la Ghouta orientale, le fief rebelle près de Damas. Depuis dimanche, les bombardements du régime ont fait ainsi près de 250 morts, 6 hôpitaux bombardés en 48 heures, dit l'ONU. Et ce n'est pas tout. L'armée de Bachar el-Assad s'est engagée sur un autre front aujourd'hui, au nord, à Afrin, pour soutenir, dit-elle, les Kurdes assiégés depuis un mois par les Turcs. Il y a donc Nabila Hamel désormais deux fronts en Syrie.
L'entrée en lice des forces syriennes à Afrin était déjà annoncée depuis plusieurs jours. Cela s'est décidé avec l'accord des forces kurdes syriennes YPG que l'armée turque tente de déloger depuis un mois. Damas a donc commencé à envoyer cet après-midi des unités militaires sur place. La Turquie a immédiatement réagi par des bombardements qu'Ankara a présentés comme des tirs d'avertissement. Les autorités turques ont prévenu que l'armée n'hésitera pas à affronter les troupes syriennes si elles entrent dans l'enclave d'Afrin pour y soutenir les Kurdes. Ce qui est en train de se passer au nord-ouest de la Syrie laisse présager une nouvelle déflagration, avec cette fois un face-à-face entre les forces syriennes et les forces turques. Et c'est un sujet d'inquiétude qui s'ajoute à la catastrophe que vit actuellement une autre région syrienne, la Ghouta. Ce fief rebelle est régulièrement bombardé par les troupes de Damas. 200 civils, dont 60 enfants, ont été tués ces dernières 48 heures. Les appels à la trêve humanitaire lancés par les ONG restent vains. Or, 400 000 personnes sont prises au piège dans la Ghouta et le pire est à craindre puisqu'un journal gouvernemental syrien affirme ce mardi que les frappes aériennes de Damas sont le prélude à l'opération terrestre d'envergure qui peut commencer à tout moment. Fin de citation. Afrin, la Ghouta, tous les éléments sont réunis pour une aggravation de la situation. Un cataclysme est à craindre, avertit Jean-Yves Le Drian. Il a prévu un déplacement en Russie et en Iran dans les tout prochains jours.
Analyse signée Nabila Hamel. Jusqu'où iront les révélations au sein d'Oxfam? Le directeur général de l'ONG a dû s'expliquer aujourd'hui devant les parlementaires britanniques. Plusieurs membres de l'organisation sont impliqués dans des affaires d'abus sexuels. Il y a d'abord eu l'ancien directeur de la mission à Haïti, accusé d'avoir payé des prostituées et organisé des orgies. Mais il y a en fait, Antoine Gignot, des dizaines d'autres cas de violences sexuelles, de harcèlement et d'intimidation.
Ce sont des accusations de viol au Soudan du Sud, des plaintes pour abus sexuels au Libéria, aux Philippines, au Bangladesh, au Népal et des témoignages de bénévoles victimes de harcèlement dans plusieurs bureaux d'Oxfam au Royaume-Uni. Une vague de révélations sans précédent, explique Mark Goldring, directeur général de l'organisation.
Sur les 26 affaires révélées, 16 concernent nos programmes internationaux. Ils s'étalent sur une échelle de temps d'événements très récents, d'autres beaucoup plus anciens qui n'ont pas été signalés à l'époque. Nous voulons vraiment que les gens disent ce qui s'est passé, quel que soit le moment et l'endroit où elles ont eu lieu. Nous avons mis en place une commission indépendante qui examine minutieusement la façon dont nous gérons les choses. Et si la commission pense qu'il y a lieu de le faire, nous rouvrirons les vieux dossiers.
Des dossiers comme celui d'Haïti, avec 7 personnes mises en cause, dont l'ancien directeur, accusé d'avoir couché avec des prostituées et qui a ensuite poursuivi sa carrière en devenant chef de mission pour Action contre la faim au Bangladesh. J'étais certain, lorsque je suis arrivé à mon poste en 2013, que la situation avait été gérée correctement, explique Mark Goldring. Ces derniers jours, 7000 donateurs réguliers ont suspendu leur versement.
J'ajoute que le directeur général d'Oxfam avait présenté ses excuses hier au peuple haïtien et exprimé sa honte. Après le rôle du briseur de tabou, Laurent Wauquiez joue ce soir celui de la victime. « Je suis devenu une cible », a dit le président du parti Les Républicains sur le plateau de BFM TV. Il est venu s'expliquer après ses propos polémiques tenus devant des étudiants en management à Lyon. Un enregistrement dans lequel Laurent Wauquiez affirme que la France est une dictature totale et où il affirme qu'Emmanuel Macron a construit sa victoire sur la démolition de François Fillon. Ce soir, le leader de la droite n'a pas présenté d'excuses. Stéphane Robert, il assume tout, ou presque.
Premier axe de la défense de Laurent Wauquiez ce soir, la victimisation. Il est une victime.
Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Il a contacté les élèves en amont, manipulé l'un d'entre eux pour le convaincre d'enregistrer ses propos dans mon dos.
Et Wauquiez ne se considère pas seulement victime d'un journaliste, c'est l'ensemble de ce qu'il appelle le système médiatique qu'il met au banc.
Ce que je pense, c'est que le système médiatique a ceux qu'il cible et ceux qu'il protège. C'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques, que aujourd'hui, j'en suis la cible.
Quand il est interrogé sur le fond, sur les propos qu'il a tenus devant ses élèves, il assume, dit-il.
Sur tous les sujets, Madame Routel-Krieff, j'assume. J'assume les propos qui ont été les miens, parce que je n'ai pas de double langage.
Laurent Wauquiez dit quand même avoir un regret, les accusations portées contre Nicolas Sarkozy, qui aurait fait enregistrer, selon lui, les mails et les SMS de ses ministres.
Vous voyez ce passage, c'est le seul que je regrette. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy.
Pas de langue de bois, donc il serait une victime des médias qui osent dire ce que les autres ne disent pas. La défense est habile. Seulement quand il dit tout ça, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire ce qu'il a qualifié lui-même de bullshit sur un plateau médiatique?
La question, c'est quand vous me dites ça, je me dis, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose qui sert sur le plateau? Vous comprenez maintenant, il y a ce doute permanent.
Elle est peut-être là, la fragilité de la défense de Laurent Wauquiez, car cette question de Routel-Krieff sur sa crédibilité pourra désormais lui être légitimement posée à chacune de ses sorties médiatiques.
Morceau choisi, analyste signé Stéphane Robert. Lui a déjà exposé sa défense la semaine dernière. C'était aujourd'hui au tour de l'accusation de s'exprimer au procès en appel de Jérôme Cahuzac. Procès pour blanchiment et fraude fiscale. L'avocat général a requis 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de l'ancien ministre du budget. Soit exactement la même peine à laquelle Jérôme Cahuzac avait été condamné en première instance, Florence Turm.
Avant d'être le procès de l'opacité et de l'ingénierie financière, ces faits révèlent une confusion totale dans l'esprit des prévenus, commence l'avocat général. Jérôme Cahuzac sait vouloir tout et son contraire, dissimuler et donner des leçons de morale fiscale. Jean-Christophe Muller détache les mots, ménage des silences et manie l'anaphore. Ce sentiment d'impunité, penser la loi pour les autres, ce sentiment d'impunité viatique de Jérôme Cahuzac, avec des conséquences délétères qui ont empoisonné l'air que les citoyens ont respiré. Là où les représentants du parquet national financier avaient en première instance opéré une chronologie minutieuse, lancé des accusations frontales, l'avocat général se risque sur le terrain de la psychologie et des références littéraires parfois improbables. Patricia Cahuzac en Madame Bovary de la fraude fiscale, Jérôme Cahuzac en Rastignac et le couple réuni se rapprochant des Thénardier. Jean-Christophe Muller se tourne vers le prévenu, resté silencieux, immobile sur son banc. Vous avez fait appel pour ne pas aller en prison, parfois donner l'impression de fendre l'armure. Mais seule une peine d'incarcération est à la mesure des faits qui ont été commis. 3 ans d'emprisonnement donc requis à nouveau et une sentence implacable en conclusion. L'ironie de l'histoire, c'est que votre plus grande contribution à la lutte contre la fraude fiscale aura été votre procès, reprend l'avocat général. Comme ministre, comme parlementaire, vous pensiez incarner automatiquement la loi. En définitive, vous serez une jurisprudence.
La circulaire Collomb, qui organise le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence, ne sera pas suspendue. Décision du Conseil d'État cet après-midi. La haute juridiction avait été saisie par une 30aine d'associations qui demandaient le retrait du texte en urgence. Elle dénonçait un tri des migrants. Une décision qui intervient à la veille de la présentation du projet de loi Asile et Immigration, un texte lui aussi très controversé. Depuis l'annonce des premières mesures fin 2017, des voix s'élèvent pour dénoncer un texte trop répressif. En cause notamment le doublement de la durée de rétention des migrants, la réduction du délai d'instruction des demandes d'asile, mais aussi du délai pour déposer un recours. Ces critiques viennent du monde associatif, de l'opposition de gauche et même de certains députés de la majorité. À l'image de Stella Dupont, députée de La République En Marche du Maine-et-Loire, qui est l'invitée de ce journal. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Je voudrais tout d'abord vous faire réagir aux propos d'Élise Fajgles, rapporteuse de ce projet de loi. La députée de Paris disait ce midi sur France Culture au sujet des réserves émises sur ce texte. On a forcément des bons sentiments, dit-elle, mais en tant que responsable politique, il faut avoir bien conscience des conséquences que cela implique. La raison plutôt que la passion, comment réagissez-vous à cette mise en garde ?
Alors, je perçois pas ça comme une mise en garde. Je pense que, effectivement, la question de l'immigration, de l'asile, c'est un sujet complexe, lourd, parce que ce sont des réalités humaines difficiles en général, et que les décisions que nous sommes amenés à prendre doivent être humanistes, doivent viser la dignité humaine, le respect des droits, mais on doit aussi faire preuve de fermeté, de façon à appréhender au mieux et à répondre au mieux à ces demandes, parce que on ne peut pas accueillir la terre entière. Je comprends tout à fait ces mots.
L'une des mesures qui suscite le plus de craintes, et notamment des associations d'aide aux migrants, c'est l'allongement de la durée de rétention pour les demandeurs d'asile déboutés de 45 à 90 jours, voire 135 dans certains cas. Est-ce que cette mesure vous paraît pertinente ?
Alors c'est une mesure qui m'interroge moi aussi, puisque donc je me suis rendue dans 3 centres de rétention pour découvrir ces fonctionnements. Et donc j'ai découvert d'abord des lieux qui ne sont pas adaptés à des séjours longs, ils sont adaptés pour les séjours de quelques jours. Ce sont des lieux où il n'y a pas d'occupation. Il y avait dans un centre notamment une télévision pour des dizaines de personnes présentes. Il n'y avait rien, aucune autre activité. J'ai pu échanger aussi avec les personnels responsables de centres et j'ai pu poser des questions sur ce sujet de la durée de rétention. Et j'ai ainsi découvert qu'il y avait en gros deux grandes catégories de personnes retenues. Des personnes retenues qui effectivement vont rester quelques jours, 8-10 jours grand maximum et qui vont être reconduites dans leur pays d'origine. Et des personnes qui vont rester la totalité de la durée maximum, c'est-à-dire des 45 jours aujourd'hui. Et à l'entrée, les responsables du centre sont quasiment à coup sûr en capacité de dire que telle personne va rester 45 jours. Parce que, suivant le profil, suivant le pays d'origine, ils savent que certains pays aujourd'hui ne coopèrent pas et ne délivrent pas de laissez-passer consulaire. Ils savent que la personne ne pourra pas être reconduite. Donc c'est en ce sens que je suis interrogative sur l'intérêt d'allonger cette durée de rétention. J'ai des questions et c'est ainsi que je veux contribuer justement au débat parlementaire.
Alors justement, est-ce que vous pourriez, en avril, quand le projet de loi sera étudié à l'Assemblée nationale, l'amender, voire voter contre si ça n'allait pas dans le sens que vous souhaitez ?
Alors là, on entre dans le travail parlementaire. On va prendre connaissance du texte, de ce qui nous convient, de ce qui nous questionne, de ce qui ne nous convient pas, et on va faire des propositions d'évolution, des propositions d'amendement de ce texte-là. Et c'est seulement après ce long processus du débat parlementaire, de construction du texte finalisé, que je serai en mesure de vous dire, voilà, si je vote tel amendement, pas tel autre, si je vote ce texte, tel article ou pas tel article, et ainsi que le texte final. Aujourd'hui, vous pensez bien que sans même avoir le projet de loi sous les yeux, je ne suis pas en capacité de vous répondre.
Dans ce débat autour du projet de loi Asile et Immigration, plusieurs députés ont émis des critiques sur une logique qu'ils jugent répressive. Est-ce que vous allez dans leur sens ?
Alors, le projet de loi, nous ne l'avons pas. Nous avons les orientations du texte. Et les orientations du texte, effectivement, l'allongement de la rétention, la réduction des délais de recours, tout ça, enfin, interroge légitimement. Moi, je ne suis pas favorable sur la réduction, justement, de ces délais de recours qui portent atteinte au droit à la défense, au droit des demandeurs. Donc, je comprends qu'on puisse lire.
Vous partagez ces réserves.
Mais oui, on peut réellement lire les choses ainsi. Donc c'est tout l'intérêt justement du texte qu'on va découvrir demain et des échanges, des débats nourris naturellement que nous allons avoir à partir de nos expériences, à partir de nos visites de terrain, à partir de nos connaissances, de nos expertises, de façon à trouver, je l'espère, le texte le plus adapté possible de façon à traiter les demandes et à accueillir surtout ces personnes le plus dignement possible dans le respect des droits humains, tout simplement.
Autour de ce projet de loi, c'est aussi constitué un pôle social à gauche de la majorité. Est-ce que vous estimez, Stella Dupont, que la politique du gouvernement, en tout cas celle de Gérard Collomb, est trop à droite ?
Alors les signaux de la proposition de loi, par exemple, que nous avons étudiée et qui a été inscrite à l'ordre du jour la semaine dernière, ou certaines orientations que je viens d'évoquer, effectivement, ce sont des signaux qui manquent de caractéristiques sociales. Donc je peux comprendre ça. Après, l'objectif, je pense, du ministre, c'est une volonté de répondre aux difficultés, aux problèmes des délais, des temps d'instruction qui sont extrêmement lourds et de la désespérance de ces personnes. Mais la manière d'y arriver me questionne et j'espère que je pourrai contribuer et faire évoluer tout cela.
Merci Stella Dupont. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche du Maine-et-Loire. Quel temps pour demain ? Ce sont le retour des éclaircies qui arrivent par le nord. Les températures baissent 3 à 8 degrés sur la moitié nord et de 6 à 13 degrés sur la moitié sud.